l'enregistrement sous vos yeux. Voilà, j'ai cliqué, l'enregistrement est lancé, je le vois tourner sous mes yeux, ça marche. C'est bon, on n'aura pas...
T'as pas oublié cette fois-ci.
Non.
Nice.
J'ai les génériques sous les yeux.
Au pire, je m'enregistre comme ça. Si tu t'enregistres pas, moi, j'aurais plus qu'à remettre ce que j'ai déjà dit.
Oui, très bien. Je suis prêt. Logo, à la fin, j'oublierai pas. Faudra que je t'envoie juste les 3 secondes de Unko qui dit « Salut, c'est Unko, vous écoutez Nordiste. »
Ah oui. Attends, je regarde s'il y a des reviews.
Des reviews.
Oh ouais. Il y a une review sur iTunes.
Nice.
Ah. Yes.
Ah, très bien.
Je te l'envoie comme ça, tu la liras.
Vas-y. Avec le nom du gars, si tu peux.
C'est dessus. Excellent. Je t'envoie le lien en fait.
On peut commencer direct. Vous êtes prêts? On y va? Parce que comme ça, on.
Sans transition.
Bonsoir. Comment je fais mon review? Je fais comme ça. Et après, c'est où?
Tu cliques dessus et c'est tout en bas. Tu scroll. Et la dernière avis, c'est une nouveauté.
Sebso?
Ouais.
Ah, c'est le Black Cat de Twitter, d'accord.
Meilleur podcast, Itels, pour ce... bravo, superbe. Eh ben, il sera lu. Promis, c'est dû.
Tu les as jamais lus, les avis sur
Si, si, je les avais lus, mais les anciens, ils ont...
Ils ont un an.
Ouais, c'est ça. Il y a un gars qui dit, Raoul, lâche pas t'aider actu pour autant.
Ouais, c'est ça, sacripant. Allons-y, Alonso.
Allons-y. Preview... C'est parti pour Nerdist Podcast. Voilà, hop, mon intro est terminée. Au moment où on lance le générique, c'est génial. Allez, let's go.
Heroes never die. Nerdist.
Salut tout le monde, bienvenue dans Nerdist Podcast épisode 47. Je suis Altiron et je suis accompagné de mes deux chroniqueurs hors pair comme chaque semaine. Tout d'abord, Stuck Logo. Salut Logo.
Bonsoir.
Quel ton très sérieux qui n'augure rien de bon pour la suite de ce podcast.
Pas du tout.
Et évidemment, Shabba aussi. Salut Shabba.
Salut.
Du coup, il a essayé, voilà, j'en étais sûr, il était obligé de faire l'idiot aussi.
On le fait en mode années 80 pendant tout le podcast.
Oui.
Salut les petits lieux.
Non, alors on ne va pas ça.
C'est pas années 80, ça c'est autre chose.
Ok, bon. Messieurs, on va parler de la première semaine du stage de Overwatch League, des équipes qui cartonnent, de celles qui résistent bien. On va aussi revenir sur ce qu'on a vu depuis le début de ce stage, le flop top, vos questions et les previews. Messieurs, si vous êtes prêts, on est parti pour 9-10 podcast. Est-ce que vous êtes prêts?
Let's go.
Ouais.
Quel enfer. Allez, vas-y, c'est parti. Messieurs, le premier sujet de ce podcast, il est dans le titre, ce sont les Chengdu Hunters qui ont fait une très grosse impression, on peut le dire. Hein. Alors, le rappel des matchs de la semaine, et oula, moi je lance des vidéos en même temps, ça va s'entendre, c'est terrible. Le rappel des matchs de la semaine, ils ont battu Paris 4-0, ils ont battu Washington 4-0 aussi, si je dis pas de bêtises, non 3-1.
3-1, ouais.
Autant pour moi. Est-ce que... On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Hein. Est-ce que c'est la meilleure équipe de ce début de stage? Amplification. Shabba.
Oula. Alors, la meilleure, je ne sais pas. Hein. Il y a quand même New York qui a collé 2-4-0 et Vancouver qui a l'air toujours aussi fringant. Après, en termes de spectacle, indéniablement, c'est génial. C'est un truc qui est trop bien regardé. Ça part dans tous les sens, on joue beaucoup de personnages. En termes d'impression visuelle, c'est clairement l'équipe la plus agréable à regarder. Après, la meilleure, j'attends de voir contre d'autres équipes en forme du stage.
Mais alors, on parle de meilleure impression visuelle. Est-ce que c'est parce que c'est bien joué? Est-ce que c'est parce que c'est sympa de voir d'autres trucs? Est-ce que c'est parce que les couleurs sont belles? Qu'est-ce que tu entends par... impression
un peu les deux premières de tes options.
D'accord.
On voit des champions, on voit des héros qu'on voit pas tout le temps, et aussi parce que la plupart du temps c'est quand même bien joué. Hein. Faut pas l'oublier.
Stuck Logo, ton avis sur la question?
Ouais, moi je dirais pas que c'est la meilleure équipe, tout simplement parce que c'est trop tôt. Quand on regarde le calendrier, c'était pas non plus des top tier teams qu'ils ont affrontés. Paris, c'est quand même. Moi, je trouve que le 4-0 peut paraître un peu sévère sur le papier. Paris s'est bien défendu, mais a un peu été esbobibé par le par ce qui a été proposé par Chengdu, clairement, ils n'ont pas su quoi répondre. Ils étaient un peu paralysés par la nouveauté. Et Washington Justice, bon, bah, pareil, ils ont tenté quelques trucs, mais que derrière, ils sont quand même, ils restent limités comme équipe dans les options. Donc, faut quand même prendre ça en compte. Après, au-delà du niveau de leur opposition, Chengdu, ils ont quand même été très, très impressionnants, notamment leur main tank, Among, qui a fait attention. Among Adorable.
Oui.
Voilà, elle est préparée depuis 3 jours, cette nuit. Désolé. Clairement, c'est un joueur qui, propose un jeu qu'on n'avait jamais vu sur Among. La dernière fois que j'ai vu un joueur aussi fort sur le Hamster, c'était la Corée du Sud, c'était Fate.
Ouais.
La qualification à Incheon, qui était aussi très impressionnant sur le Hamster, mais c'était quand même un autre contexte. Face à des équipes un peu plus faibles que le niveau Overwatch League. Donc clairement, ce joueur crée des espaces sans avoir de shield. Voilà, il est toujours dans l'impact, il a le timing, il est bon. C'est un vrai balai que propose le chinois. Et c'est quand même super chouette de voir justement une équipe chinoise qui propose du beau jeu, qui se pose pas de questions de la méta, qui juste développe son style. Et du coup, je pense pas que ce soit la meilleure équipe, mais en tout cas, c'est peut-être une équipe qui va piéger celles qui sont pas prêtes. Et c'est cool parce qu'ils jouent Overwatch comme le jeu est supposé être joué, imaginé par les développeurs, et comme tout le monde espère pouvoir jouer le jeu, quoi, tout simplement.
Il y a un joueur qui a été, alors notamment le match contre Paris, Elsa, le joueur qui a été élu MVP, le joueur de Flex, Flex Tank, il est, il joue Diva, lui.
Il joue Diva ou Sombra Tracer,
oui,
ça dépend.
C'est ça, ça dépend. De toute façon, dans cette équipe, tout change un peu. C'est un joueur qu'on n'avait pas trop vu de mémoire en Stage 1, et qui a quand même fait une bonne performance. Est-ce qu'il peut s'implémenter, je cherchais le mot, pardon, c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai les résidents, s'implémenter dans ce nouveau roster, dans ce roster en l'occurrence.
Elsa a joué quasiment tous les matchs du stage 1, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de rotations en fonction des compos entre lui, Lei Qiong et Bacon Jack.
C'est ça.
Alors que là, sur ce début de stage 2, clairement, il y a plus de switch, c'est le même 6 sur toutes les maps, donc ça fait 8 maps d'affilée que les Hunters ont la même line-up avec du coup Elsa et Bacon Jack. Donc Lei Qiong pour le moment n'a peut-être pas assez convaincu sur le stage 1, mais oui, Elsa, c'est vrai qu'il se révèle bien là sur ce début de stage 2. Il avait fait quelques plays sympathiques avec sa Diva et sa Sombra en stage 1, mais toute l'attention en fait des observateurs sur les Hunters, tout était sur Ameng, clairement, parce que
et Jinmu un peu.
Et Jinmu, voilà, parce qu'avec pléthore de pics DPS que cet homme peut jouer.
Ouais.
Mais là, ce stage donne l'occasion de regarder aussi un peu les autres joueurs de cette équipe des Hunters, et je trouve que c'est très bien que Elsa ait été sélectionnée comme homme du match contre Paris. Ça donne un peu d'exposition et ça récompense le travail fourni par le joueur.
Messieurs, ouais, vous serez ravis d'apprendre, je suis désolé Logo, mais je suis obligé de te transmettre cette information cruciale que je viens de lire sur sa fiche Wikipédia. Sachez que le tag Elsa lui a été inspiré par la Reine des Neiges, le personnage de la Reine des Neiges, voilà, vous coucherez moins bête. Logo, tu allais dire.
C'est cringe, merci, je ne sais, non, j'allais dire Elsa, moi je l'ai trouvé assez impressionnant sur les pics exotiques. Les typiques pics qu'on voit à niveau low tier et que d'habitude c'est, voilà, les Torbjörn, la Symmetra. Ouais, il y a des trucs, des petits détails qui me font dire quand même que c'est des joueurs qui mécaniquement ont quand même une maîtrise assez ample de plein de héros. C'est que Symmetra utilisait les portails pour placer les tourelles sans qu'elles se fassent shooter en l'air. C'est vraiment des trucs que tu vois jamais, quoi. C'est la première fois que j'ai vu ça. Pareil, son Torbjörn, il était quand même très efficace sur King's Row. Donc c'est quand même assez chouette de voir tous ces joueurs qui sont très flex, et du coup ça donne une amplitude stratégique à cette équipe. La question c'est de savoir comment tu les contres. Est-ce qu'ils vont imposer la méta, est-ce que ça va être juste leur style de jeu, et du coup si c'est juste leur style de jeu et que les autres équipes le copient pas, comment vont faire les équipes pour se préparer uniquement à ça? Ça va vraiment demander aux joueurs d'être très intelligents, de connaître parfaitement le jeu pour trouver le counter live, quoi. C'est ça la difficulté contre cette équipe.
Il y a eu plusieurs moves assez impressionnants, notamment cette téléportation de masse sur Anamura en deux fois, une première fois dans la petite maison à droite, une deuxième fois directement sur le point. C'est vrai que c'est des situations auxquelles les joueurs sont pas forcément habitués, parce que c'est un peu what the fuck, on peut dire, mais ça marche, et vous avez raison de le souligner, c'est, et surtout toi Logo, c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux, parce que non seulement il y a du talent, mais surtout cette polyvalence leur permet énormément de choses, et en face c'est dur de s'adapter si tu pars avec des schémas un peu préconçus, donc c'est fort. Maintenant, est-ce que ils peuvent maintenir cette espèce de surprise permanente pendant tout un stage, c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, pardon, excusez-moi, face à des adversaires un peu plus coriaces, quoi. Il faut reconnaître que Paris et Washington, c'était quand même pas les deux meilleures équipes du stage 1.
Non, mais concrètement, moi, c'est ça, en fait. J'attends de les voir contre une équipe qui est vraiment qui est en pleine bourre, en fait. Donc, je les attends contre des San Francisco Shock, contre des Vancouver Titans, toutes ces équipes, en fait, qui ont le vent en poupe. Même contre Boston, en fait, je pense que ça peut être un bon test pour eux, parce que Boston, ils sont sur une super dynamique. On revient dessus un petit peu plus tard. Mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment intéressant ce sera intéressant plutôt de constater la progression de cette équipe face à d'autres équipes qui justement tournent bien, parce que Paris, on sait que c'est un peu mi-raisin, Washington c'est une catastrophe, donc voilà, maintenant il faut wait and see, comme diraient nos amis grands bretons.
Je suis en train de vérifier leur calendrier du stage 2, c'est quand même pas si relevé, parce que ça joue Shanghai semaine prochaine, Gladiators semaine d'après, donc là c'est peut-être leur match le plus dur. Ensuite c'est le week-end à Dallas avec Hangzhou, puis London le lendemain, et la dernière semaine c'est contre Valiant, donc c'est quand même un stage qui est abordable, Logo.
Oui, je pense que c'est un stage qui est abordable largement pour eux. Ce serait très sympa de les voir en play-up, parce qu'un style explosif comme ça, qui en plus change totalement des méta-goats que le public apprécie pas forcément, ce serait chouette de les voir en avant. Et puis en plus, ce serait quand même un beau symbole pour les équipes chinoises, parce que certes on a quatre équipes chinoises, mais Chengdu Hunters, c'est la seule qui est composée presque uniquement de joueurs chinois, à mis à part un Taïwanais,
Bacon Jack,
voilà. Donc, ça serait quand même une sacrée revanche pour cette scène-là, qui montre que voilà, on le savait depuis longtemps. Hein, c'est un peu le symbole, c'est que les contenders Chine ont pas forcément embrassé la méta GOAT qui avait été dans le monde entier légion, et de les voir, voilà, ils avaient leur propre style de jeu, un truc très porté sur les DPS, assez flex, un peu comme joue Chengdu, et de voir que bah justement Chengdu est resté sur cette logique de dire ok, c'est le jeu à la chinoise et on respecte et on continue comme ça, et de voir que ça marche à minimum, en tout cas pour le moment ça marche bien sur ce stage 2. Sur stage 1 ils étaient à 3-4, donc c'était quand même honorable. Voilà, ce serait quand même chouette d'avoir un autre goût d'Overwatch qui aille loin. Et je pense que oui, si t'as pas des masterminds dans ton équipe qui sont capables de trouver des solutions et d'avoir cette intelligence de jeu pour trouver la bonne compo et le bon positionnement, ça va être difficile de les prendre comme ça juste au skill.
On est d'accord. Voilà pour la page Chengdu Hunters. On passe à notre deuxième sujet du jour, les Boston Uprising, qui sont quand même illustrés avec une semaine tout en retournement, puisque sur leurs deux matchs face au Atlanta Reign, puis face au, et là ça m'échappe, je le retrouve tout de suite,
Toronto Defiant,
ils ont été menés 2-0 avant de revenir et de l'emporter 3-2. Techniquement, c'est même la troisième fois d'affilée qu'ils font ça en saison régulière, puisque le dernier match du stage 1, donc la semaine 5 du stage 1, ils avaient fait un retournement, un reverse sweep également, et je vais vous dire tout de suite, c'était
contre
Dallas. Ah oui, évidemment, le match contre Dallas, où Dallas menait 2-0 et pouvait encore se qualifier en playoff. Donc cette équipe de Boston Uprising, on compte pas nos playoffs, vous l'avez compris, elle est quand même championne pour se sortir des situations difficiles, et c'est rare parce que il y avait la stat qui est passée pendant le match, mais il n'y avait pas des tonnes d'équipes qui avaient réussi à le faire auparavant, à être menée 2-0 et à revenir 3-2. Donc c'est quand même une équipe qui a du mental, et on sait en Overwatch League c'est important. Quels éléments peuvent expliquer cette espèce de résistance? Naturellement, on pense assez vite à Fusion, vous noterez que je fais exprès de prononcer le S pour qu'on se plante pas avec l'équipe, et Fusion, ce qui, on le voit verbalement et apporte cet enthousiasme dans les matchs et hors des matchs quand on a les caméras sur lui. Est-ce que déjà ça, c'est un premier élément d'avoir un joueur hyper, motivant et qui pousse toute l'équipe malgré la situation compliquée à 2-0? Est-ce que pour vous déjà c'est un premier élément d'explication? Voilà. Jabba.
Oui, Je pense que oui, complètement, parce que c'est très simple comme réponse, c'est très simpliste, mais oui, clairement, parce qu'on on rappelle hein, Fusion, ce qui a vu quelques petits démêlés avec les règlements vu qu'il était en two-way contract au début du stage 1. Clairement, quand il était pas là, quand ils ont dû jouer sans lui, c'était pas la même équipe, il y avait pas ce visage conquérant. Et puis on le voit, en fait, c'est ce qui est incroyable avec ce joueur, c'est que c'est surtout quand ça ne va pas. Que on le voit s'exciter de la mâchoire et de on voit qu'il déblatère tellement de trucs pour son équipe. C'est dans les situations les plus compliquées pour l'équipe, en fait, c'est à ce moment-là qu'il montre tout son tout son potentiel de leader, en fait. Je pense que cette équipe de Boston, sans lui, elle n'a pas de leader. Et il fait franchement une entrée vraiment fracassante dans cette ligue depuis le début de cette saison. Et si Boston arrive à se sortir de situations compliquées, c'est sans doute parce que il donne tout ce qu'il a en plus de avec son personnage en dehors aussi pour tout ce qui est cohésion d'équipe et morale. Je pense que c'est un atout inestimable hein, pour l'uprising d'avoir Fusions.
Logo, est-ce que hors du terrain, on l'a dit, ça compte. Est-ce que sur le terrain, tu trouves qu'il est aussi déterminant?
Je dirais oui. En fait, clairement, Fusions, c'est ça. Un peu à l'ensemble de toute l'équipe, ils sont beaucoup plus à l'aise déjà sur les maps payload. Clairement, parce qu'à chaque fois, bah, les deux maps qui perdent en premier, c'est contrôle et assaut. Et derrière, la map convoi et la carte hybride, c'est celle qui gagne. Et après, avec le momentum et la confiance, ils arrivent à revenir. Et Fusions, clairement, il est dans cet état d'esprit. Clairement, aujourd'hui, dans les maps... notamment assaut, ça demande de connaître des héros qui, lui, il est pas encore OP dessus, je dirais plutôt Orisa, des choses comme ça, qui clairement pas du tout le même gameplay que Reinhardt. Il est un peu moins à l'aise là-dessus, et du coup, bah, ça joue. Après, moi, je mettrais pas tout sur les épaules de Fusions. J'ai vraiment l'impression que Blazé et Colorex, ce sont deux excellents joueurs, mais qui sont extrêmement irréguliers. Et que sur le match notamment contre Toronto, ils font une première partie de rencontre où ils ont vraiment du mal, notamment Colorex qui se fait vraiment maîtriser dans le duel de Farah face à c'était qui, enfin je sais plus.
C'était Ivy.
Et après dans un second temps, ils reprennent des couleurs. Colorex fait des têtes énormes sur le avec Widow. Enfin voilà, clairement il step up d'un coup. Et ils sont beaucoup plus à l'aise. Et après, c'est là où on voit le facteur confiance aussi. Fusions le disait en interview après le match. Clairement, en fait, ils abordent les deux matchs pas très confiants parce que c'est un peu la suite des précédents matchs qui se terminent en 2-3 aussi en reverse sweep, c'est que ils commencent mal les matchs et donc du coup sur les cartes KOTH et 2CP, ils sont pas à l'aise. Et puis ensuite, ils savent qu'ils vont arriver sur une carte où ils sont plus à l'aise, donc ils ont la confiance. Puis après, c'est un peu une équipe momentum, un peu comme Fusion, mais peut-être un peu plus les fusions.
De perdre logo, je sais pas si c'est pareil, Shabba, mais j'ai l'impression que tu passes dans un tunnel. Moi, je t'entends dans un tunnel.
C'est un peu comme Philadelphia, mais version plus, c'est une équipe momentum, c'est-à-dire que après, une fois arrivés à la cinquième map, ils sont plein d'énergie, plein de confiance, et ça joue énormément, ça se sent. Sur les fins des cartes, à chaque fois, ils sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressifs qu'en début de match. Ils sont peut-être un peu passifs et ça joue énormément, j'ai l'impression.
Effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de l'apport de RCK, le nouveau joueur qui était transféré la semaine dernière depuis Dallas?
Très correct, pour ma part. Je trouve qu'il a eu, comme son équipe, hein, les matchs ont commencé de manière un petit peu compliquée pour Boston. Et pour son tout premier match, contre Atlanta, c'est vrai que sur les deux premiers matchs, je me disais on voit qu'il était arrivé il y a pas longtemps. Mais au fur et à mesure du match, je trouve qu'il s'est mis bien dans ses baskets et dans le deuxième match contre Toronto, même sur les deux premières maps où clairement Boston a été en dessous, je trouvais qu'il était assez consistant sur son niveau. Que sur sa Sombra, il a vraiment fait un boulot vraiment monumental sur un match comme sur l'autre, et que sa Diva était toujours on point. Hein, donc clairement, je trouve qu'il rentre finalement assez bien et assez vite dans ce collectif, et ça va être intéressant de voir avec de plus en plus d'automatisme ce que ce joueur au sein de cette équipe ça va donner quoi.
Du coup, est-ce que pour... c'est une question, évidemment, la réponse est non, mais est-ce que pour Boston, la solution, c'est de se laisser mener de zéro au début de chaque match pour finir par gagner?
Oui. Non.
Ah, bon. Non mais honnêtement, est-ce que c'est une équipe qui du coup, à l'inverse, vous pensez est capable de gérer une avance? Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'elle a fait. Et elle a, on l'a vu, elle est plutôt en forme quand elle arrive à retourner la situation, à se mettre dans un bon état d'esprit. Du coup, est-ce que de gérer une avance et d'avoir la main sur le match, ça peut pas leur faire perdre un peu leurs moyens?
Bah justement, j'ai l'impression que non, au contraire. Quand ils reviennent à 2-0 et qu'après ils sont remontés comme des pendules et qu'ils avaient gagné la troisième match. Je pense qu'ils ont le mental, hein. Clairement, au niveau mental, c'est leur grande force, c'est ce qui leur permet de à chaque fois revenir. Je dirais que ce qui leur manque, c'est vraiment de maîtriser un aéroport un peu plus large. Clairement, il y en a aujourd'hui, ils ont plus que 6 joueurs qui sont vraiment actifs. Alemão et Percier, on les voit pas du tout pour le moment.
Alemang, apparemment, il faut dire.
Axiom non plus. Hein.
Axiom, on ne voit pas non plus.
C'était censé être le main tank en même temps.
Axiom, c'est le dernier de la farce. Il devait être le deuxième tank dans la lineup. Il est resté le tank. Mais bon, entre temps, le troisième est passé premier. Et en fait, ce qui leur manque, c'est ça. Je pense un peu plus de flexibilité sur les pools des héros pour être capable de maîtriser les compositions qui sont nécessaires sur les deux premières cartes. À partir du moment où ils ont ça, s'ils ont le mental et qu'ils sont toujours aussi redoutables sur les deux cartes suivantes, ils risquent d'être quand même assez fort. Après, voilà, il faut être capable de faire ça.
Après, ce qui est paradoxal, c'est que, oui, j'utilise des mots compliqués, c'est que cette équipe, elle perd les KOTH en début de match, mais que du coup, quand c'est décisif, elle les gagne. Comment on explique ça?
Bah, je pense que c'est une question de momentum. Ouais, c'est ça. Ils sont montés comme des pendules et derrière, au momentum, tu vois, au mental et l'agressivité, je trouve qu'à chaque fois, ils commencent les matchs de manière un peu passive, ils subissent un peu le rythme et le jeu. Et en fin de match, par contre, ils sont beaucoup plus entreprenants, ils prennent plus de risques, ils y vont. Enfin voilà, quoi, il y a de l'engagement qu'il n'y a pas au début et ça joue énormément, j'ai l'impression.
Ah, clairement, c'est à l'image d'un boxeur en fait qui est dans le dur en début de partie et qui a besoin de se prendre quelques coups pour se réveiller, quoi. C'est comme ça que je les vois en fait, c'est Boston Uprising.
Ah, c'est une belle analogie, effectivement. Du coup, Boston, les prochains matchs, j'ai regardé, et évidemment, je me le suis enlevé au moment où j'allais le dire. Le prochain, c'est la semaine prochaine contre Hangzhou. Donc, à voir s'ils arrivent tout de suite à se mettre dans le bain et à gagner. Derrière, ils jouent Vancouver en semaine 3. Et là, ça va être un vrai affrontement et un vrai test pour eux, quoi. Parce que là, c'était mené 2-0 par Vancouver. Il y a, a priori, peu de chances de réussir à remonter. Donc bon, en tout cas, un stage intéressant et dans la continuité du premier, malgré le changement de note et de RCK. Donc, équipe à suivre aussi. Dernier point de ces trois grands sujets du jour, on a vu, ça y est, enfin, à quoi allait ressembler la nouvelle méta, à quoi allait ressembler notamment Baptiste, qu'on a vu pas mal dans cette première semaine d'Overwatch, de Overwatch League Stage 2. Shaba, qu'est-ce que toi t'as pensé de l'apport de ce héros? Est-ce que les compos sont un peu plus sympas à regarder? Est-ce que son panel n'est pas un peu trop cheaté comme des joueurs le laissaient penser avant qu'il soit implanté? Qu'est-ce qui t'inspire, toi, ce Baptiste?
Bah, c'est très très fort comme personnage. J'étais quasiment persuadé que au coup d'envoi de ce stage 2, Baptiste allait faire une entrée remarquée dans le Hero Pool de la ligue. On n'a pas attendu très longtemps. Concrètement, je trouve que le héros a beaucoup d'utilisations possibles. Il rentre dans pas mal de compositions différentes. Et j'ai aussi remarqué que souvent le joueur de Brigitte, au moment où il faut revenir pour faire des contestations un petit peu au dernier instant, souvent il revient sur un Baptiste pour avoir cette zone, ce champ d'immortalité qui justement permet une énorme survivabilité du côté de son équipe, avec cette balise, et également avec son shift qui remet quand même un heal sur la durée, qui est quand même très très intéressant en termes de points de vie rendus. Ça, sur toute une équipe relativement paquée, plus sa barrière de son ultime qui double les dégâts de tous les projectiles qui passent à travers, c'est un outil défensif qui est vraiment super super puissant, je trouve. C'est vraiment le seul problème de le sortir dans une constatation à l'arraché, c'est que il faut qu'il ait le temps de stacker cet ulti, parce que vraiment c'est
ça vient vite quand même.
voilà, ça monte vite, mais l'ulti il est prépondérant, quoi. Si tu n'as pas l'ulti de Baptiste au moment où tu tentes une contestation comme ça, ben ça vaut moins le coup. Mais en général, le champ d'immortalité apporte beaucoup pour les situations un petit peu désespérées. Après, si c'était un checkpoint, ben, on voit le Baptiste qui repart au spawn, qui reprend sa brigitte. Enfin, c'est
pas encore un héros qui est indispensable dans la méta, mais il y a des compos, et alors on peut en dire un petit mot, la fameuse Bob, avec toutes ses variantes, à lunettes, à kimono, à chapeau, à tout ce que vous voulez. on essaiera, j'aimerais bien que dans les prochaines semaines, on fasse venir chez Twan qui nous explique les origines de ce délire. Non mais c'est une compo qui était déjà connue un peu avant Baptiste aussi, la compo Bunker avec la Orisa et le Bastion, et du coup avec Baptiste en plus, qui mettent ce champ d'immortalité. C'est les compos qui sont un peu situationnels, non, Logo?
Clairement, oui. Pour le moment, ça reste quelque chose qui sont déjà surtout sur les 2 CP et qui dépendent énormément de la hauteur. Si tu es capable d'aller chercher très rapidement, assez facilement en hauteur, le Winston, bah derrière tu peux dive, et d'ailleurs c'est marrant de revoir un peu de la dive, mais version 2.0. Mais oui, clairement ça reste pour moi situationnel. Après, moi ce que je me dis sur Baptiste, c'est que s'il est déjà joué à haut niveau, bon après c'est dans des cas très précis, c'est qu'il a l'air pété, parce que généralement les joueurs pro attendent de vraiment maîtriser mécaniquement le personnage pour vraiment l'inclure dans la méta. Hein, faut pas oublier que t'as des pros qui dépendent quand même d'un niveau mécanique que le commun mortel n'a pas. Et du coup, bah juste de le voir jouer maintenant, c'est qu'a priori, voilà, il est quand même plutôt fort, ce personnage. Et c'est plutôt cool, parce que c'est quand même sympa de voir des personnages qui demandent du skill. Parce que quand même, pour être létal avec lui, c'est compliqué. Le E, il faut quand même le sortir au bon moment, et il faut pas non plus... voilà, on a déjà vu des strats pour essayer de le planquer en même temps que tu sors le drone pour des strats sur Paris notamment. C'était Paris qu'il avait fait, des trucs un peu sympas. Donc c'est plus sympa de voir des héros avec du skill être joués à un niveau pro que des brigades par exemple.
Par exemple. Après, il y a des brigades avec du skill qui sont impressionnantes à voir aussi, mais bon.
Bah, le skill il est mental, mais le skill est pas au niveau du cliquage de tête, quoi.
Effectivement. Justement, tu en parles, et c'est vrai qu'on a oublié de le mentionner dans la préparation de ce podcast, mais la map de Paris qu'on a vue à quelques reprises, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup au niveau pro? Shabba, tiens, toi qui as regardé tous les matchs cette semaine.
Comment dire? La map est vraiment sympathique à regarder, avec des équipes de ce calibre. C'est pas la QP de Jean Toto 45 qu'on croise quand nous on va sur le jeu.
Et qu'on embrasse d'ailleurs.
Voilà, bien sûr, Jean Toto, si tu nous écoutes. Concrètement, en fait, j'aime bien les possibilités qu'apporte la map. C'est possible de... en fait, c'est un petit peu à l'image de Baptiste. Il y a beaucoup de compositions qui sont complètement viables sur cette carte. Ensuite, la grande force de la carte, je trouve, c'est vraiment ce côté très ouvert sur le premier point. On peut passer par, à part la première entrée qui est vraiment au niveau de la rue principale.
Le premier choc avant le commissariat est un peu dur, mais sinon.
Exactement, voilà. Il y a cet endroit-là, mais après, on peut prendre position au niveau du commissariat, on peut prendre position au niveau de l'hôtel. Je trouve vraiment que c'est une map qui est pleine de possibilités. Et puis après, c'est quand même très champagne de manière générale. Ce qui se passe, on a vu peu de goats sur Paris. Bon, le champagne, sauf français, quoi. Donc nickel. Et sur le deuxième point, après, pour quand je trouve que le deuxième point, c'est à niveau pro, c'est incroyable la contestation qu'on peut avoir dessus, quoi. Je trouve que c'est presque pire que les autres maps d'assaut qu'on a, parce que tu sors du spawn, tu fais 3 pas, tu touches le point, quoi.
Ouais, je suis d'accord que le deuxième point, il est un peu chaud à défendre, quoi. Logo, tu l'as vu aussi un peu cette carte, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah moi j'aime bien parce que tu vois des strates un peu différentes qui sont justement les Bob ou compo Bunker. Elles ont quand même tout leur sens ici, et tu vois quand même des compos un peu particulières, je trouve, sur cette carte, et c'est quand même assez chouette d'avoir justement des spécificités vraiment dans la méta pour chaque carte. Après, moi, je suis pas spécialement d'accord avec vous de trouver le point B très difficile à attaquer. Hein,
Ah bon?
Moi, j'ai trouvé que plusieurs équipes ont
à
eu
attaquer
du mal
ou à défendre?
À attaquer.
C'est ce qu'on dit.
C'était exactement ce que je disais.
C'est ce qu'on dit, justement, elle est
dure à défendre. Ah pardon, oui.
Elle est facile à défendre. Ah oui, j'ai peut-être dit dur à défendre, pardon. C'est peut-être
voilà.
Dur, mais effectivement.
Voilà, merci.
Ouais, non,
mais
ça tout, va.
Tout sur le. Tout, hein, wow.
Bon, oui.
non, et justement, je trouve ça pas si mal parce que des fois, c'est un peu usant les deux CP où c'est, ça se termine au bout de, du sixième round. Là, pour le coup, enfin voilà quoi. Pour attaquer, il faut avoir quand même. Enfin, pour réussir l'attaque, il faut avoir un sacré avantage. C'est peut-être un peu trop loin dans l'autre curseur, on va dire. Mais c'est intéressant d'avoir des deux CP qui c'est pas Volskaya quoi, qui c'est pas Drozskaya quoi, tu vois.
Ah oh, franchement, et... c'est tu trouves que c'est plus loin que sur un temple d'Anubis ou une Volskaya justement.
Bah, je trouve que temple d'Anubis est beaucoup plus simple à attaquer en termes de snowball. Si tu te démerdes bien sur le premier point derrière, tu peux snowball assez facilement et on l'a encore vu ce week-end. Là sur Paris, le snowball, j'en ai. Je crois pas en avoir vu, moi, personnellement.
Bah, justement, parce que le... Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que le point de réapparition est tellement près quand t'es en défense que même si l'écart est assez rapide entre le point A et le point B, bah, de toute façon, tout le monde est déjà revenu.
Mais en fait, c'est pas trop un problème de si les gens sont revenus ou pas, mais sur un Ubis, par exemple, ou même Volskaya un peu moins, mais... On va dire que si le premier teamfight se passe bien et que tu gagnes au premier teamfight le point A en attaque... D'ailleurs, le point B, tu vas avoir un avantage d'ulti qui va être vraiment considérable et qui va te permettre de, bah, d'aborder le teamfight. C'est pas mal comme ça si sur un Amura, même, peut-être même plus que sur Anubis. Ça va te permettre vraiment d'avoir un déséquilibre sur le point B et c'est comme ça que tu peux avoir le fameux snowball sur Paris. Moi, j'en ai pas vu en tout cas pour le moment, ou peut-être que j'en oublie, mais.
Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de grosse attaque ultra dominante pour le point A.
Aussi, ouais. Ouais, aussi, c'est vrai. Parce donc, du coup, en fait, c'est pas mal parce que chaque pourcentage compte sur le point B,
ouais.
Je trouve.
Ouais, ouais.
Et ça, non, mais c'est et ça, je trouve ça intéressant, quoi.
C'est vrai que cette map est sympa à regarder aussi pour ça. Elle change un peu des deux CP. Peut-être que celle-ci, elle, effectivement, elle ira pas en 8-7 comme score final et c'est pas plus mal. Dernier point un peu méta, messieurs, on voit de plus en plus. Alors, la Goat, c'est quand même resté de temps en temps, mais elle est plus. Il y a plus trop de Reinhardt. Il a été pas mal remplacé par Winston. Justement, c'est ce que tu disais, logo un peu peut-être pour contrer aussi les Baptistes, Orisa, Bastion qu'on peut voir en face. Est-ce que ça peut devenir la compo un peu. Phare de cette nouvelle méta.
Je pense qu'il faut prendre en compte énormément les maps, le map pool, qui a d'une manière générale des cartes avec beaucoup plus de verticalité, et donc forcément qui dit verticalité dit moins de Reinhardt et plus de Winston. Donc je pense que ça joue. Après effectivement, bah, les buffs sur les anti-tanks comme Chacal ou bah, le fait que Reinhardt se traîne un peu plus maintenant que Lucio et un peu son speed boost est carrément lent. Bah, ça avantage pas trop et on sait que les équipes jouent énormément sur la rapidité et le rythme pour prendre l'avantage sur les teamfights. Donc forcément, bah, un Reinhardt moins rapide, c'est un Reinhardt qui est un peu moins intéressant pour les équipes.
Shabba, pas trop triste du départ, enfin de la moins visibilité de ton Toton préféré?
Non, jamais. Après, je trouve quand même que ça reste une situation relativement équilibrée dans le sens où souvent sur certaines maps on voit que pour un troisième tronçon ou quelque chose comme ça on repasse sur du Reinhardt. Des fois on a le Reinhardt que pour une section précise, des fois c'est plutôt le Winston. On voit des cartes où ça tente une défense Orisa, derrière ça passe pas, on prend Winston, et puis quand on est vraiment sur la dernière section ça reprend Reinhardt. Je trouve qu'il y a une rotation qui est intéressante
Avec Kenval par exemple.
Voilà, bah, typiquement avec Kenval sur Kings Row on a des défenses Orisa, on en revoit pas mal et c'est de, ça rentre dans cette espèce de cycle, dans cette rotation. Je trouve que c'est vraiment intéressant à suivre pour le coup. Après, je pense que si Winston revient autant, c'est d'une part, comme l'a souligné Logo, pour à cause de la verticalité des maps de l'ensemble actuel, mais également parce qu'il faut rappeler que les rayons font beaucoup plus de dégâts sur les personnages à armure sur ce stage. Et concrètement, un Winston qui tase un Reinhardt sur ce stage, il lui fait beaucoup plus mal. Qu'au stage précédent. Donc au stage précédent, quand un Winston tentait de charger son ult sur un Reinhardt, le Reinhardt lui mettait deux coups de marteau en réaction en mode qu'est-ce que tu veux, retourne dans ta cage quoi. Mais là, je veux dire, le Reinhardt il prend son marteau, il se le carre là où on pense et c'est lui qui va prendre un singe après.
Puis je pense aussi qu'il y a un autre truc qui joue et qui est tout bête, c'est qu'il y a beaucoup plus de main tank qui main Winston que Reinhardt au niveau Overwatch League. Et donc forcément, si tu as une fenêtre pour utiliser plus le singe que le teuton, bah tu vas vouloir utiliser le scientifique forcément.
Effectivement. Voilà pour notre petit point et pour les sujets de la semaine. On va passer tout de suite au flop top. Capture the objective. Alors messieurs, le flop top, qu'est-ce qui va commencer? C'est Shaba qui va commencer, puisque le logo, je ne vois pas écrit le tien. Je ne sais pas s'il est prêt. Tu es prêt, logo, au moins?
Ils sont surprises.
Parfait, j'adore. Tiens, bah, Shaba quand même commence. Voilà.
Pour le flop, pour le flop, du coup, bah, c'est... Alors, on a beau dire qu'ils tentent des trucs qui sont plus la niaque, c'est vrai que contre New York, on les a vus assez, je dirais, belliqueux.
Choix de mots approprié. Oui.
Oui. Non. Mais les Shanghai Dragons se récupèrent mon flop de la semaine, puisque que ce soit contre les Gladiators ou contre New York, en dépit de, des performances qui sont intrinsèquement plus que correctes, il y a un truc qui m'a vraiment agacé dans cette équipe, c'est que ils ont réussi à faire fonctionner un type de composition, on va dire, typiquement sur sur Kings Row contre Gladiators, bah ils se sont entêtés toute la map avec leur composition Goats en chacal assez hybride, et ça a fonctionné un petit peu, mais sur, enfin, ils ont essayé de passer toute leur attaque avec cette compo. Au bout d'un moment, il faut changer leur abnégation mal placée pour vouloir absolument faire fonctionner une compo qui a déjà marché précédemment. J'ai trouvé que ça leur avait porté énormément de préjudice. Tout comme le fait de faire une espèce de Goats Pharaange quand ils ont joué contre New York. Certes, Ding fonctionnait vraiment vraiment bien avec sa Phara, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Il faut switcher. Donc c'est dommage parce que l'équipe a les armes clairement pour embêter beaucoup beaucoup de monde dans cette saison, dans ce stage 2. Mais au bout d'un moment, faut réfléchir quoi. Là, ça allait pas du tout. Ça m'a tilté vraiment. Ça, deux matchs d'affilée, voir que la compo elle a marché un point et ils la reprennent et voilà. Et voilà.
Très bien, c'est bon, c'est entendu. Ta colère est entendue, Shaba. Et on espère que ils s'adapteront et ne referont plus la même erreur. Logo.
J'espère bien.
Moi, mon flop, c'est une autre équipe chinoise, c'est les Guangzhou Charge. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolé.
Guangzhou.
Ouais, bref, les Charge. Oui. Sur Twitter, je m'amuse jamais à écrire le, mais toujours que Charge parce que c'est beaucoup plus simple. Et ça me fait... je suis sûr de pas me tromper. Moi j'ai été extrêmement déçu par le niveau de cette équipe et que j'ai trouvé, surtout d'un point de vue stratégique, incompréhensible. Deux exemples très vite. Contre Paris, sur Paris, ils voient une compo bunker par la défense de Paris. Ils décident de quoi? De faire une compo bunker en attaque sans l'avantage du high ground, avec un double shield et face à une sombre qui leur a fait les fesses, ça n'avait aucun sens, c'était complètement stupide. Autre exemple, c'était du coup contre les Vancouver Titans. Alors certes, les Vancouver Titans c'est quand même un gros morceau, faut se le fader, mais par contre d'avoir une compo où le counter direct de cette compo c'est très clairement une Goat Reinhardt, quand tu joues face aux Vancouver Titans qui ont clairement la meilleure Goat Reinhardt avec les SF Shock, essaye de trouver une compo où le counter c'est pas le point fort de l'équipe quoi. Donc moi j'ai été extrêmement déçu par le niveau stratégique proposé par cette équipe, et je suis assez déçu parce que on en avait dit du bien dans le stage 1, ils étaient plutôt encourageants, et là j'ai trouvé vraiment assez affligeant ce qu'ils ont pu proposer sur cette première semaine d'étape 2.
Effectivement. Mon flop à moi, il me parle d'aventure, pas du tout. Mon flop à moi, c'est les Los Angeles Valiant. Merci, messieurs. Los Angeles Valiant qui continue de s'enfoncer dans les tréfonds de la non-réussite en Overwatch League. On a revu Costa quand même, ça c'est cool. Mais il y a cette petite stat qui est passée après le match contre San Francisco Shock et qui fait extrêmement mal à l'endroit où il vaut mieux pas que ça fasse mal. C'est que dans ce match-là, il y avait 4 joueurs de San Francisco Shock qui avaient un ratio... kill-death de 4, c'est-à-dire qu'il avait fait 4 fois plus de kills qu'il n'était mort dans un match. Vous dites, bon, pourquoi pas? Sachez que depuis le tout début de la saison 2 d'Overwatch League, il y avait seulement 6 joueurs qui avaient réussi cette performance. Là, sur un seul match, il y en a 4 du côté des Chocs. Donc c'est exceptionnel de domination, et certes, les Chocs sont une équipe très en forme et finaliste du stage 1, et les Valiants sont à 0-7, mais voilà, j'ai peur pour eux et je sais pas de quoi l'avenir peut être fait. On rappelle la fenêtre tout de même en semaine 3 contre Washington. Tout se joue là. La saison des Valiants se joue là.
Ça me rappelle la saison 1 du podcast où toutes les semaines c'était est-ce que ça sera la fenêtre pour...
Ouais, quand les Dragons jouaient les Mayhem.
Les Bayern ou Dallas.
C'était raté. Donc voilà, on... bon, côté Valdon, c'est compliqué. Les tops, messieurs, tiens, logo, commence.
Moi, mon top, c'est Rascal, que j'ai trouvé très impressionnant avec justement Baptiste. Moi, c'est un joueur avec lequel j'ai pas vraiment de sympathie au prime abord parce que il a quand même une grosse réputation de diva. C'est sa troisième équipe en Overwatch League.
Il joue DPS, pardon, hein, pas off tank. Voilà, c'est tout.
Ça recommence.
J'ai dit off tank.
Oui, non, mais t'as dit diva comme diva, bref.
Ah, joli. Ah non, c'est très beau. Et justement, moi, enfin, son comportement était quand même très critique, très à critiquer. J'y arriverai pas. Et en fait, moi, j'ai trouvé déjà que sur Brigitte, qui est quand même pas le héros le plus enthousiasmant à jouer quand à la base t'es un main Genji. Bah, je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Derrière, Baptiste, sur Anamura, il a quand même montré des très beaux trucs, d'une manière générale. Il maîtrise déjà assez bien le héros, il m'a impressionné. Donc voilà, je fais amende honorable et je le félicite pour ce début de saison. Très réussi pour Rascal, en espérant qu'il il va pas péter entre les doigts des chocs et il va pas refaire un coup de diva comme il a su le faire avec la saison dernière.
Je vais prendre le deuxième top, tiens, pour une fois pas être le dernier, puisque j'aime bien.
Fais donc.
Et moi, mon top, c'est Effect. En fait, pourquoi je le mets en top? Parce que comme ça, on en parle. Mais non, mais c'est vrai.
Tu n'as pas sa gueule, il a pris sa retraite, je suis très content.
Non, pas du tout, et c'est tout le contraire. C'est que c'était un joueur qui avait quand même été bon en saison 1 et qui faisait aussi la réussite de Dallas, notamment dans le dernier stage, et qui est un joueur qui, donc là, vous l'avez suivi, a pris sa retraite cette semaine et qui expliquait qu'il avait quand même de sérieux problèmes mentaux, qui se sentait très mal et très je saurais pas trouver les mots exacts, mais en gros que ça n'allait pas du tout, et je trouve ça rassurant déjà qu'il ait pris cette décision pour lui et qu'il arrive à exprimer ce sentiment et qui pense à lui avant tout, c'est la chose la plus importante, et c'est pas le premier joueur à le faire. N'oublions pas que dans ce jeu, le plus important, c'est les joueurs et leur santé. Et voilà, je voulais profiter de cette tribune pour vous rappeler que il faut avant tout profiter de la vie. Putain, ça a l'air nul ce que je dis. Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire, évidemment. Effect, bon repos et bon courage pour la suite.
Après, moi, je vais payer. Excuse-moi, juste, j'enchaîne un tout petit peu. Je vais appuyer sur F pour donner mes respects à Effect, parce que le joueur, c'était quand même peut-être un des meilleurs joueurs de Overwatch d'un point de vue mécanique. C'était un gars qui passait 2 heures avant les matchs à s'échauffer, à s'entraîner très rigoureux, avec un niveau d'exigence énorme, avec un hitscan fabuleux. C'était peut-être d'un point de vue talent pur, un des meilleurs joueurs d'Overwatch, et malheureusement, c'est sur le plan mental qu'il a pas pu progresser pour arriver au niveau des Tougans. Mais c'est quand même, je pense que dans l'histoire d'Overwatch, il va quand même marquer après Overwatch League. C'était quand même un très très grand joueur.
Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on le savait pas forcément, mais c'est aussi un des rares joueurs affirmés LGBTQ+, je ne sais plus toutes les lettres, mais bref, de l'Overwatch League, puisqu'il avait fait un coming out en décembre 2018, affirmant qu'il était bi. Voilà, donc c'est aussi des.
Il y en a d'autres. Il y avait quand même.
Lui, c'était le troisième à l'avoir fait.
Il y a elle qui est Mouma qui était vraiment le plus.
Voilà, c'est j'imagine que c'est pas facile non plus de faire ce genre de statement quand t'es dans une ligue pro comme ça, où certes tout le monde est sans doute un peu plus peut-être un peu plus ouvert que dans les sports tradis où c'est difficile, mais j'imagine que tout ça joue et donc bravo.
C'est un milieu très masculiniste, hein, l'e-sport, hein, d'une manière, il y a pas mal de papiers qui sortent en ce moment. Il tente à dire l'inverse, en fait, hein. Alors bizarre. Là,
étonnamment, tu me surprends, parce que moi j'aurais dit que par rapport au sport tradi, c'est un peu plus ouvert, mais peut-être.
Blizzard en soi fait énormément attention à ça, et peut-être même trop attention en interdisant, par exemple, de faire OK avec ses doigts dans les vidéos. Mais en soi, l'e-sport, d'une manière générale, c'est quand même pas le milieu qui est le plus progressiste aujourd'hui.
Trop. Okay. Bon, voilà pour ce top en réjouissant. Shabba fini de nous réjouir.
Je me suis permis d'intituler mon top Bon baiser de Russie. Oui. Parce que mon top de la semaine, c'est Shadowburn. Genre, ça fait trop plaisir de voir ce Safara. Il a tellement fait de la peine avec Sazaria que voir cette Pharah, cette régalade, même s'ils ont pris un gros 4-0 contre Chengdu.
C'est double Guangzhou, hit.
Il a tout cassé avec, avec Safara, quoi. Quel monstre.
C'est OS sur OS.
Double hit. Ah oui. Oh.
Le futur. Oh, il est dans le futur.
Quel régal.
Il était loin quand il fait ça double.
Ah ouais, ouais, il est au-dessus du point et la Pharah adverse, elle est quasiment après l'ascenseur là.
C'est monstrueux.
Un putain de régal de revoir ce joueur sur un pic qui lui convient, parce que Brigitte Zarya, on sait que c'est pas pour lui. Et là, franchement, sur la Pharah, peut-être on se dit, il va peut-être ressortir son Genji et tout. Donc,
Moi, on l'a vu un peu sur Genji, je sais plus sur quelle carte, mais face à Guangzhou, on l'a vu un peu sur Genji.
Donc du coup, super super content, parce que moi, j'étais très content de le revoir dans une équipe Overwatch League, même si il n'était pas titulaire indiscutable et récurrent dans cette équipe de Paris. Je suis très très content de le voir sur des pics où il est à l'aise, où il peut montrer vraiment tout le talent qu'on lui connaît déjà, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça c'était très cool à voir et de toute façon on n'en a pas encore parlé, on va juste en dire un petit mot tout à l'heure en parlant de Paris, mais de voir la nouvelle version de Paris c'était assez réjouissant de manière générale. Voilà pour le flop top, on passe tout de suite aux questions des auditeurs.
Des explications de pourquoi la cote est si forte ? Eh bien c'est très simple, Jean-Edouard.
Alors, messieurs, les questions des auditeurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit avec cette voix aussi enjouée tout à l'heure, c'était bizarre. Première question de Mine le Hibou, ça rejoint un peu mon flop. Valiant vers un nouveau 0-7, point d'interrogation ?
Oui, pardon.
Tu penses qu'ils se font battre par Washington ?
Ouais.
C'est ça la question. Hein. C'est...
Ouais, je pense pas. Ouais,
Moi, je pense que oui.
Non, ils ont une meilleure front lane, clairement. En fait, ils ont plus de talent, j'ai juste l'impression qu'ils n'arrivent pas à comprendre la méta, ils n'arrivent pas à jouer, mais... On sait que c'est des bons joueurs.
Un joueur super intelligent.
Joli. Non, mais c'est des bons joueurs, on le sait. Hein, ils l'ont fait déjà. C'est juste qu'il faut qu'ils... Peut-être qu'ils... Moi, je compte sur un déclic en plein milieu de stage pour... Et derrière, s'ils comprennent ce qui se passe, ils ont les joueurs pour bien appliquer ce qu'il faut faire.
Je suis assez d'accord. Je pense quand même pas qu'ils finissent une deuxième fois à 0-7. Deuxième question de Black Cat. Salut les gars, pensez-vous que les Hunters peuvent devenir le nouvel épouvantail de la Ligue sur ce stage? Voir les suivants, ont-ils la force de bousculer les grosses coréennes de la Ligue? Il doit manquer une équipe, un mot équipe quelque part.
D'ailleurs, c'est un petit peu réducteur, là.
Écurie. On en a beaucoup parlé en début de podcast, donc on peut faire vite, mais globalement, est-ce qu'ils peuvent devenir un épouvantail, hein, des gros de cette ligue? Je pense que c'est déjà tôt pour en parler, et même j'ai du mal à les imaginer au-dessus des Vancouver, des San Francisco, des équipes un peu plus établies, genre des Boston Uprising, des trucs comme ça. Bon, je les vois quand même encore un peu en dessous.
Ouais, je faisais la réflexion, c'est rigolo parce que d'habitude dans l'e-sport, c'est les Coréens qui inventent les strats un peu originales, avant-gardistes, des trucs comme ça. Bah, dans Overwatch aujourd'hui, c'est les Chinois. Et moi, je pense que les équipes qui vont avoir la cohésion et l'intelligence pour trouver des solutions in-game vont être capables de les battre d'un point de vue mécanique. Et je pense, est-ce que New York va être capable de faire ça? Franchement, j'ai des doutes parce que New York, on l'a vu hein, en play-off de Stage 1, quand ils font face à un plan de jeu qui est rodé contre eux, ils savent pas répondre. Par contre, j'imagine que quand même les autres top-tier équipes ont le niveau mécanique et il faut juste qu'ils aient l'intelligence là.
Ouais. Bah justement, question suivante de Enz avec 4Z, 3Z. Pensez-vous que les deux géants coréens, New York et Vancouver, vont tomber dans ce stage 2?
Ouais. Franchement, je pense que New York peut tomber en fonction de leur calendrier.
Je suis en train de regarder, ça joue Washington et Florida la semaine prochaine, donc autant te dire que ça va. La semaine prochaine, c'est plutôt
peut-être
tranquille.
Un peu plus tard.
Et la semaine suivante, c'est Philadelphie, Atlanta. Bon, ça reste à leur portée. Ils jouent pas à Dallas et la dernière semaine, ils rejouent Atlanta.
Alors peut-être pas en fait.
Non. Et Vancouver, je te fais Vancouver tout de suite.
Allez.
Séoul, Houston semaine prochaine. Dallas, Boston semaine d'après. Pas de match lors de la semaine à Dallas. Puis Toronto, Séoul la semaine suivante. Eux, c'est quand même plus relevé. Hein.
Je serais pas surpris de voir Dallas. On n'a pas vu Dallas jouer cette semaine, mais tu vois, genre un Dallas-Boston dans la même semaine, c'est compliqué de préparer les deux matchs en même temps. Je serais pas étonné qu'une des deux équipes en profite, tu vois.
Ouais, pas bête. Shabba.
C'est possible. Est-ce que les deux peuvent tomber? Dans l'absolu, cette ligue, cette saison 2 a déjà prouvé depuis le début que énormément d'équipes pouvaient tomber contre à peu près n'importe qui. Il reste que ces deux-là à épingler dans le tableau des surprises.
La question.
Mais voilà, c'est oui, techniquement oui, c'est possible. Après, est-ce que ça va être faisable? Bah, le calendrier, pour le moment, il est pas trop d'avis que ça se fasse, quoi.
Ouais. La question pour New York, c'est surtout est-ce qu'ils vont tomber en play-off, enfin, après, ouais, voilà. En saison régulière, ils gèrent plus.
La réponse est oui, de toute façon. question de Piotr. Pensez-vous que le départ de Dafran compromet l'accès aux play-offs pour les Atlanta Reigns? Moi, j'ai une réponse qui est, voilà, toute simple, c'est oui. On va pas se mentir, Baby Bay est un bon joueur et... Ah, ben c'est ça! On cherchait tout à l'heure les transferts qui ont été annoncés après notre podcast la semaine dernière. Mais Baby Bay, on l'avait pas?
Je crois pas, je sais plus.
Je crois pas qu'on en avait parlé. Bon, bref.
Ah, si, il me semble, mais.
Tout ça
bref.
Pour dire que Dafran plus là, Baby Bay à la place. Certes, Baby Bay a l'expérience de la saison 1, mais enfin, il est quand même parti d'une équipe de San Francisco où il avait plus sa place tant les autres sont forts et que, bah, lui, moins. Ouais, moi, je suis pas, pas convaincu par Atlanta en playoff.
Je serais pas si sévère sur Baby Bay, je le trouve pas si mal. Alors, il a des gros problèmes de positionnement, son decision making est clairement à perfectionner. Là où Dafran quand même avait aussi des problèmes de decision making, mais peut-être moins symptomatique, j'ai envie de dire. Dafran c'est sur quelques décisions, alors que Baby Bay c'est vraiment plus en profondeur. Par contre, en termes de tracking, en termes de mécanique, c'est quand même un joueur qui est très talentueux et c'est pas si mal. Après, clairement, Atlanta, ils ont pas ce petit grain de folie, ils ont pas ce mec qui est capable d'être clutch, qui était Dafran. Baby Bay, il manque un peu de ça. Il est peut-être plus consistant, mais moins décisif.
Ouais, finalement, heureusement que Baby Bay est là dans ce stage 2 et pas dans le stage 1 du côté d'Atlanta, parce qu'il aurait rien apporté, a priori, sur les picks un peu traditionnels.
Je pense pas.
Je suis en train de voir que Washington, ils ont quand même New York puis Atlanta à jouer la semaine prochaine, c'est quand même pas facile.
RIP!
Et dernière question de Sefi, pensez-vous que Paris pourra redresser la barre et tenter les playoffs sur le stage 2? Eh bien, Sefi, figure-toi qu'on va répondre à tes questions tout de suite après le jingle, puisque on va passer au match à ne pas manquer la semaine prochaine, et donc on va parler de Paris. Escort the payload. Vous avez vu comment j'arrive à gagner du temps sur le temps dans ce podcast.
Incroyable.
Premier match donc qu'on vous conseille de ne pas manquer la semaine prochaine, c'est le match qui oppose Dallas à Paris dimanche à 21h. Il y a plein d'histoires dans ce match déjà parce que alors c'est le premier match. Je les énumère et après vous me direz ce que vous préférez comme sous-titre de ce match. Premier match de noter avec Dallas puisque Dallas n'a pas joué cette semaine. Unco nous l'avait rappelé en interview et on l'a bien vu de toute façon. Les retrouvailles de Damon avec Paris, puisque Damon, on le sait, est maintenant assistant coach pour les Tanks du côté de Dallas. C'est les Tanks ? Oui, c'est les Tanks.
Ouais, c'est
du côté de Dallas, et qu'il rejoue tout de suite avec sa nouvelle équipe contre Paris. Paris qui, effectivement, commence bien la semaine 1 en battant en Guangzhou 4-0, mais en se faisant surprendre derrière et en perdant 4-0 face aux Chengdu Hunters. On le sait, les défaites peuvent pas être trop nombreuses si on veut jouer les playoffs de stage parce qu'il y a que 7 matchs. Est-ce que c'est pas déjà une dernière chance entre guillemets pour Paris qui a un calendrier plutôt relevé ensuite? Voilà messieurs, je vous laisse le champ libre, vous avez 20 secondes. Logo, qu'est-ce qui t'intéresse toi dans ce match?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revoir Paris déjà dans un premier temps, parce que moi,
ils auront joué. Je m'excuse, ils auront joué contre Florida en tout début de match. Et ils ont le premier match de cette semaine d'ailleurs. Ce sera le premier match vendredi matin.
Mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'ils ont proposé sur cette première semaine. Alors certes, ils perdent contre les Hunters 4-0, mais d'une manière générale, j'ai trouvé l'équipe très cohérente dans les choix par rapport au roster. C'était certainement, et la Fefe l'a dit en interview, c'était certainement trop leur demander d'être fort sur la méta très tank de l'étape 1. Parce que certes, c'était des Européens, mais il n'y avait pas tant de joueurs qui avaient une expérience en Contenders Europe, là où méta tank était la plus éprouvée. Et ils avaient surtout un roster DPS avec beaucoup de DPS. Et du coup, j'ai trouvé très bien la valeur qu'il y avait sur ses picks phares. Danier qui est arrivé, j'ai coulé ma petite larme pour toi, Altiron, quand j'ai vu Danier rentrer sur scène.
Trop content.
Intéressant l'apport de Gray. J'ai trouvé LH Ludi très très bon sur le Winston, mais en même temps, c'était pas une surprise.
Et sur le Bulldozer
aussi, il était pas mal du tout. Moi, j'ai envie de revoir ça. J'ai envie de voir s'ils sont capables de continuer d'avoir des compos un peu marrantes. Ils ont quand même fait 2-3 trucs un peu innovants avec Soon en flanqueur aussi. Ça fait plaisir de le revoir en flanqueur, à part sur Tracer. pas sur Tracer, mais sur Sombra, mais quand même, il a quand même, quand il s'agit d'être derrière les adverses, il est quand même très fort. Donc j'ai envie de revoir, est-ce que c'est une confirmation, est-ce que c'était simplement parce que c'était des équipes chinoises un peu moins fortes, alors encore une fois, les Hunters, voilà quoi, mais comme Guangzhou, c'est quand même une opposition assez faible, j'ai envie de voir leur vrai niveau. Et puis Dallas aussi, de voir comment ça se passe avec Nod, c'est quand même une des grosses questions, de se séparer d'un joueur aussi flex que RCK dans une état qui demande d'être plus flex, bah voilà, voir comment ils s'organisent par rapport à ça. Et c'est puis, voilà, c'est, pour moi, c'est les deux enjeux principaux de ce match.
Shabba, toi, qu'est-ce que tu retiens?
Pour le coup, c'est un match qui va être intéressant à suivre parce que Paris, ils ont fait un gros plein de confiance contre Guangzhou en gagnant 4-0. Puis honnêtement, le 4-0 qu'ils prennent contre Chengdu, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc c'est vrai qu'ils passent d'un moral au top à un moral d'être un petit peu plus en direction des chaussettes. Mais donc à voir. Après, Florida, je pense que c'est... Allez, on va pas leur faire injure à Florida, mais ça reste quand même un bon cheval pour se remettre en selle, hein, du côté de du côté des Parisiens. Du coup, le match contre Florida devrait les lancer et normalement ils devraient être sur une dynamique positive pour attaquer le match contre Dallas et essayer de proposer quelque chose d'intéressant. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment Claudie très très impactant, beaucoup plus que Ben Best sur le stage 1. Son bulldozer m'a assez impressionné parce que je m'attendais pas du tout à le voir. Aussi, on va dire, maîtriser autant le petit hamster. Mais puis son Winston, voilà, le Winston beaucoup plus clutch. Shadowburn sur des pics DPS, Logo l'a dit, ça fait plaisir. On sent que, de toute façon, quand un joueur est sur son même pic...
Il a souri sur scène.
Voilà, oui, voilà, je veux dire, c'était quand même incroyable ça. Et quand un joueur est sur un pic qu'il affectionne, je veux dire, forcément, il va se sentir mieux, il va jouer mieux, quoi. Il y a des ajustements tactiques à faire du côté de Paris, je pense. Peut-être mieux gérer les Hammond avec la Sombra, parce que c'est sûr, c'est Ameng, c'est un petit peu God dans la catégorie bulldozer. Mais bon, se priver de la Sombra par moment en mode, on va jouer une goat contre ce hamster dopé aux hormones chinoises. Enfin, je sais pas, ça me semblait aberrant quand on voyait que du côté des Hunters. Elsa arrivait et faisait hop un petit piratage sur Claudie et Claudie était en mode et il repartait la boule entre les jambes.
Il était en mode quoi
pour le hamster? Ah, il faisait des petits bruits, tu vois,
un peu comme ça, tu vois.
Ouais. Tu sais, t'as un hamster qui galère à escalader quelque chose dans sa cage.
C'est ça.
Franchement, voilà, il faut ajuster ça parce que je pense que vraiment avoir une Sombra qui sait gérer les bulldozers, ça va être ultra important sur ce stage. Et pour Dallas, ça dépend comment ils seront rentrés dans leur semaine également, mais curieux de voir cette mouture Dallas Fuel avec Damon pour s'occuper de la ligne de tank et avec Note dedans. Je suis vraiment curieux de ce match.
Ils jouent la veille contre Toronto, Dallas, pour leur premier match de
la semaine.
Bonne
mise en bouche, ça.
Ouais. Et il y a un truc, évidemment, dont on n'a pas parlé ouvertement, mais il y a quand même des Français de part et d'autre dans ce match, donc c'est aussi pour ça qu'on vous recommande de le regarder. D'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve, j'en ai pas souvent parlé, mais il y a un truc qui m'énerve dans cette Overwatch League, c'est qu'à la fin, quand les deux équipes se saluent, il y a souvent, il y a souvent des Coréens qui se saluent entre eux, et c'est normal, il y a beaucoup de joueurs coréens dans cette ligue, mais quand il y a d'autres joueurs, d'autres nationalités qui se croisent, et je pense notamment là à Kib et Fusion, je sais plus c'était quand qu'ils se sont affrontés, c'était fin de stage 1, ou quand il y a d'autres joueurs voilà de la même nationalité qui se croisent et qui on sait se connaissent et qui sont potes et tout, on nous les montre pas, alors que c'est dommage, ils sont souvent et voilà, j'imagine qu'il y a un geste un peu plus cool, ils doivent mais j'aime bien dans le sport les gens qui à la fin du match montrent un vrai respect, une vraie amitié pour l'adversaire, et là on nous le montre pas, c'est un peu dommage. Donc j'espère qu'on verra les embrassades des Français entre eux à la fin, parce que c'est toujours cool ces images là. Si l'Overwatch League m'écoute, n'hésitez pas. Le deuxième match dont on va parler dans cette preview rapidement, parce qu'en fait on a un peu pas pris par défaut, mais on savait pas trop quoi choisir. Londres-Philadelphie, 21h samedi. Moi, j'ai juste noté dans mes notes, avis biaisé de Logo. Donc, c'est le moment où Logo va nous donner son avis sur ce match.
Non, moi, j'ai trouvé très lamentable contre New York en début de semaine. Ils étaient vraiment apathiques et affligeants. Par contre, très agréablement surpris sur le deuxième match. Alors, je me souviens plus de tête contre qui.
Florida-Mayhem.
Contre Florida-Mayhem. Alors, ça, l'opposition était pas ouf. Mais j'ai trouvé... Autant Carpe vraiment très mauvais sur le premier match, autant Carpe très bon sur le second match. Et en fait, c'est comme d'hab avec les fusions. Hein. Si Carpe va, tout va. Donc voilà, espérons qu'il va bien. puis ouais. ça passera.
Le premier match s'était joué, souvenez-vous, c'était le tout premier match de cette reprise de ouais. Overwatch League saison 2, et ça avait fait un 3-1 assez, assez bourrin pour Philadelphie, parce que la côte de London n'était pas du tout en place.
Oui.
Donc bon, plutôt confiant pour ce match, Logo ?
Non, franchement non, parce que c'est le problème des fusions. Quand tu... côté, ça peut être enthousiasmant. De jamais savoir à quoi s'attendre, le CF, les playoffs de fin de saison de l'année dernière. D'un côté, tu peux toujours te dire qu'ok, à un moment donné, Boombox, il va sauter dans le vide pour rien, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, non, je dirais non. Je pense que Londres est une équipe qui est certes moins forte que l'année dernière, mais qui est pas sous-estimée.
C'est clair. Mais oui, en plus on l'a pas dit, mais c'est le remake de la finale de la saison 1 de l'Overwatch League.
Ça commence à faire beaucoup de fois que ça remake. Hein.
Bah, ouais. Ça va, c'est la deuxième et dernière fois en saison régulière, puisque de toute façon, ces équipes-là ne se recroiseront pas derrière. Voilà, toi, qu'est-ce que tu vois gagnant en ce match-là, Shaba ?
Bah, je sais pas trop, parce que même contre Florida, Philadelphie m'a pas rassuré, et je trouve que Londres est a pas trouvé encore la solution pour débloquer vraiment son compteur et rentrer pleinement dans cette saison 2. J'ai vu cette semaine qu'ils avaient refait jouer Birdring, donc je suppose que c'était pour les piquer un peu DPS évidemment, mais ils vont avoir un petit casse-tête entre Birdring, Guard et Profit, les Spitfire, et il va falloir qu'ils trouvent le bon rythme, la bonne compo. Peut-être que ce match contre Philadelphie peut leur servir de déclic. Peut-être qu'ils peuvent se servir comme à la manière d'un sport un peu traditionnel de cette défaite en entrée de stage 1 pour rebondir et casser du Philadelphia Fusion en deux sur le match. Pour le push, je reste assez indécis par rapport au résultat, mais vu que Philadelphie m'enthousiasme pas du tout en ce moment, je mettrai une petite pièce sur Londres.
T'entends ça, Logo ?
Non mais voilà, je ne sais pas quoi dire. C'est sacré.
Ouais, cela dit, je pense que j'irai avec Londres aussi.
Je suis S-Bobby.
Oui, alors j'ai pas osé te demander tout à l'heure d'où ça sortait, et en fait je sais pas si je veux savoir.
Je dirais juste Reflet d'acide, j'écoute ça en ce moment.
Ah bah voilà, bon bah si vous aimez Reflet d'acide, vous aurez reconnu, moi non. Le podcast numéro 47 de Nerfzis se termine comme ça, sur ces belles références. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, comme toujours, sur les 36 000 différentes plateformes de podcast sur lesquelles on est présente? Évidemment sur Twitter, @stucklogo pour logo, @chabaloutre pour Shaba, @raoulvdg pour moi, et principalement @nerfziscast pour le podcast. On l'avait promis, on va le faire, puisque il y a eu une review sur...
Oui ! Oui ! Ouais !
Retenez-le. Il y a eu une review sur iTunes podcast, donc sur Apple Podcast, pardon. Donc merci à Sebso qui nous dit « Meilleur podcast sur l'Overwatch League, idéal pour se tenir au jus avant les matchs de fin de semaine. Bravo les gars !» entre guillemets Black Cat, vous aurez reconnu notre fidèle follower Black Cat sur Twitter. Donc merci, et merci pour les 5 étoiles au passage. Si vous voulez, comme lui, passer à l'antenne la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller faire des reviews sur Apple Podcast. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Messieurs, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
Bah, moi, mon plaisir, comme toujours. Et on se dit à la semaine prochaine. On vous rappelle très vite le premier match de la semaine qui arrive. C'est Paris contre Florida Mayhem. Comme toujours, vendredi à 1h du matin. Et derrière, voilà, les matchs qui dérouleront aux horaires habituels cette semaine encore. Très bonne semaine à tous. Très bonne semaine d'Overwatch League. Très bonne semaine sur Overwatch et dans tout ce que vous faites dans la vie en général. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Sucez mon nez.
Heroes never die. Nerf this!